Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1, il est 16h. Et on retrouve Guillaume Lariche pour les infos. Bonjour Guillaume.
Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dimanche de manifestation à Paris contre le racisme et l'islamophobie. Défilé à l'appel d'une cinquantaine d'organisations comme la France Insoumise. Le départ a eu lieu en début d'après-midi dans le 10e arrondissement. Guillaume Dominguez, vous qui êtes sur place, pardon.
Oui, le cortège est parti de Barbès précisément aux alentours de 14h30. Plusieurs centaines de personnes marchent à présent vers la place de la République. Un cortège aux couleurs de plusieurs mouvements différents. Lutte contre le racisme et l'islamophobie, lutte pour les droits des personnes sans papier et mouvement pro-palestinien. Plusieurs centaines de drapeaux palestiniens et des drapeaux aux couleurs de la France insoumise flottent d'ailleurs au-dessus de la foule en ce moment. Pour le moment, la manifestation se déroule plutôt dans le calme, même si un important dispositif de police a été déployé pour baliser l'itinéraire. Selon nos informations, les services de renseignement craignent des débordements au cours de cette manifestation. Cet après-midi de mobilisation devrait se terminer par un concert du rappeur Medine sur la place de la République à 18h. Un concert, lui, aussi placé sous surveillance.
Et Guillaume Dominguez pour Europe 1. Pour la rentrée des classes de demain, les syndicats d'enseignants de Seine-Saint-Denis mais aussi de Haute-Garonne appellent à la grève. Ils réclament la création de 8000 postes d'enseignants et de vie scolaire. Et parmi les autres revendications, pas plus de 20 élèves par classe et la réfection aussi des établissements vieillissants. Jusqu'au printemps 1944, les Françaises ne pouvaient pas voter. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 21 avril 44, la France accordait le droit de vote aux femmes. L'occasion de rappeler à tous les citoyens français que vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales pour voter aux européennes par internet jusqu'au 1er mai et en mairie jusqu'au 3 mai. La fête foraine à Blois ne reprendra pas ce dimanche pour son dernier jour de présence au parc des expositions, conséquence d'un accident mortel l'année dernière. Après son éjection d'un manège à sensation vers 23h, une jeune femme de 27 ans n'a pas survécu à ses blessures à l'hôpital. Une enquête judiciaire est en cours. Le propriétaire de l'attraction concernée a été placé en garde à vue. Au lendemain du vote de la Chambre américaine, des représentants en faveur d'une aide militaire de 61 milliards de dollars pour Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué une assistance qui sauvera des milliers de vies. À l'inverse, la Russie affirme au contraire que cela tuera encore plus d'Ukrainiens. L'enveloppe doit encore être validée par le Sénat américain dans les prochains jours. La 30e journée de Ligue 1 de football se poursuit actuellement avec trois rencontres. 0-0 actuellement entre Le Havre et Metz. Mi-temps également entre Reims et Montpellier. Montpellier domine actuellement 1-0. 1-0 aussi pour Lille-Strasbourg en faveur des Lillois. Et puis la course des 24 heures du Mans Moto, remportée aujourd'hui par Suzuki devant BMW et Yamaha. Le circuit de la Sarthe accueillera les 24 heures du Mans Auto le week-end du 15 juin prochain. Cyclisme avec la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, date de 1892. Après ses victoires au Tour des Flandres et dans le Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel rêve d'un triplé inédit. Et puis dans le Pas-de-Calais, enfin, la plage de Berck célèbre depuis hier le Festival international du cerf-volant, 37e édition où plus de 800 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche prochain.
Europe 1,
16h03 et tout de suite, les meilleurs moments de Sophie et les copains.
Europe 1, 16h-17h, Sophie et les copains.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour les meilleurs moments de Sophie et les copains de 16h à 17h sur Europe 1. Vous le savez, on écoute ensemble les performances des auditeurs d'Europe 1 qui ont répondu dans la bonne humeur aux questions de culture générale posées par Sophie d'avant, avec en soutien bien sûr toute la bande des copains. Le but, c'est de remporter le jackpot d'Europe 1, un jackpot qui évolue chaque jour. Alors si vous aussi, vous souhaitez tenter de le décrocher, inscrivez-vous maintenant en envoyant Sophie par SMS au 739 21, 3 x 75 centimes plus coût du SMS. C'est ce qu'a fait Cécile, qu'on retrouve tout de suite autour de Sophie d'avant, ses copains du jour, Clément Lanoux, Anissa Haddadi, Fabien Olicard et leur invité, celui qui achète le célèbre danseur et chorégraphe Jean-Marc Généreux.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cécile.
Bonjour Cécile.
Qui nous appelle
Bonjour.
De
Clermont-Ferrand.
Ah, oh, magnifique. Que faites-vous à Clermont-Ferrand?
Je suis directrice de crèche.
Vous avez vous-même trois enfants, c'est ça? Mais bon, ils sont,
oui,
plus à la... ils sont plus à la crèche. Ils ont quel âge?
Non. Eh bien, l'aîné a 23 ans, la deuxième 21 et le troisième 15.
Ah oui. D'accord. On va jouer au bluff Europe 1.
Qui bluffe, Martini?
Europe 1.
Qui bluffe?
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, il faut que je vous raconte quand même, chers auditeurs, que dès qu'on passe un petit peu de musique, Jean-Marc Généreux danse. Il danse assis, mais il danse.
Ah, c'est une déformation professionnelle.
Le principe du bluff est simple. Je vais poser une question. Chaque copain va proposer une réponse en essayant d'être le plus convaincant possible. Une seule affirmation est bonne. À vous de démasquer les deux bluffeurs et la bonne affirmation. À vous, Cécile et Jean-Marc, vous pourrez l'aider. Nous allons parler donc de peinture et de couleur, et pas n'importe quelle couleur. Le pourpre de Tyr, un rouge noble qui tire sur le violet. C'était la couleur préférée de Cléopâtre, de l'empereur Néron, qui aimait teindre ses toges de cette couleur extrêmement chère à produire, au point de condamner à mort quiconque osait la porter. Mais avec quoi produisait-on du pourpre de Tyr ? Clément.
Alors, vous avez demandé à la bonne personne, parce que je suis un fan et un féru de peinture.
Allez,
et
cette il couleur commence comme ça.
Que
vous,
je connais
vous
très
peignez
bien. Non, mais je suis... j'aime observer. J'aime aller me promener. Et je connais très bien le pourpre
des
de
gens
Tyr.
Qui connaissent des gens.
Et ouais, c'est fait, je vais vous surprendre, avec de la bave d'escargot de mer. Pas n'importe quel escargot. En fait, on appuie dessus un peu. C'est tout un long processus. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais en fait, sur ces escargots-là, on appuie, et c'est les glandes salivaires des escargots qui donnent cette couleur un peu pourpre, un peu rouge, violet même, que je vous invite à aller voir, c'est assez dingue. Voilà d'où ça vient. C'est surprenant, mais croyez-moi.
Donc, de la bave d'escargot de mer.
Ah oui, hein, si vous prenez un escargot n'importe où, ça ne fonctionne pas.
Les escargots de Bourgogne, ils font moins de peinture.
Non, ça, c'est autre chose.
Alors, Anissa, justement, quelle est votre proposition?
Bon, alors, moi, vous allez voir que c'est beaucoup plus logique. Si je vous parle d'un insecte qui a les plus belles couleurs au monde, que même les peintres n'ont jamais réussi à reproduire, on pense bien sûr au papillon, avec ses ailes et ses couleurs chatoyantes.
Elle parle beaucoup avec ses mains, j'ai l'impression qu'elle essaie de nous embrouiller.
Bref, les papillons et de leurs ailes ont des couleurs chatoyantes. Eh bien, pour faire ce rouge noble, ce pourpre de Tyr, eh bien, on prenait les ailes des escargots et on les rendait en poudre. Les ailes des papillons.
Ah oui, j'ai l'impression que vous avez été happé par...
Non, parce qu'elle voit des escargots volants.
De Clément,
et des papillons de mer. Non,
elle voit des ailes
des
papillons roses volants.
On en fait de la poudre. Et ça fait ce...
Et je rappelle que la drogue, c'est dangereux pour la santé à tous les auditeurs.
Et Fabien.
Non, mais c'est rigolo parce que les mensonges, ça permet de bien rigoler. Maintenant, on va parler de la vérité. On va parler du grenat. Les grenats qui sont riches en fer sont généralement altérés avec de la masse rouillée qui s'agglomère. D'ailleurs, le mot grenat, c'est un dérivé du mot gerner. Gerner, ça veut dire quoi? C'est un mot ancien qui veut dire rouge foncé, qui tire vers le violet. Et longtemps, on a cru que tous les grenats étaient que des rouges qui tiraient vers d'autres couleurs. Et fin du XXe siècle, on a vu qu'il y en avait aussi en bleu. C'est une découverte très récente qui a été faite à Madagascar récemment.
Oui, alors moi aussi, je peux dire que papillon en latin, ça vient de papillonus.
De papillonus,
qui signifie en latin rouge foncé. Non.
Cécile, je veux pas vous influencer, mais j'ai pas été chercher des villes, des choses comme ça. C'est simple, je vous dis juste que je sais pas où. Franchement, je ne saurais pas vous dire comment.
Alors,
je sais juste que c'est les escargots de mer.
Je récapitule. Clément vous dit que ça vient de la bave d'escargot de mer.
Mais bien sûr.
Anissa nous dit que
la
cette
vérité.
Couleur du pourpre de Tyr viendrait d'ailes, des ailes de papillon. Et Fabien lui dit que ça viendrait du grenat réduit en poudre. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Cécile?
Comme ça.
J'aimerais bien avoir l'avis de Jean-Marc Généreux.
Qu'est-ce qu'il pense, Jean-Marc Généreux?
Moi, je vais vous dire, j'ai écouté les trois réponses et je saigne du nez. Et donc là, tout d'un coup, le rouge est devenu très évident.
Voilà.
Je pense, d'une certaine façon, les ailes de papillons, ça avait beaucoup, beaucoup de sens parce que j'ai déjà capturé des papillons. Bon, je ne les ai pas torturés, mais tu finis avec
Jean-Marc.
Tes mains, il reste de la matière. Mais je pense, sérieusement, que potentiellement les escargots.
Ah non, Jean-Marc.
Mais je pense, en tout cas, parce que ça me semble tellement loufoque,
alors,
mais
Cécile,
tellement logique.
À vous de choisir, à vous de bloquer une réponse. Qu'est-ce que vous dites?
On se connaît depuis 5 minutes, mais je ne vous ai jamais déçu.
Alors, vous bloquez quoi?
Les ailes de papillon, plutôt.
C'est dommage, parce que Cécile...
Cécile, on est toutes les deux, clairement, mais parfois, vous savez, entre Auvergnat...
Bon, donc je bloque les ailes de papillon.
Je vous aurais demandé de me choisir, mais bon.
Je bloque les ailes de papillon.
La phrase de Voice aussi, Sophie Lavant. La
Sophie. Bon, c'est pas la bonne réponse. Oh, je suis désolée, non, Cécile.
Désolée.
Et
Cécile.
Non, c'était de la bave d'escargot de mer. Les historiens de l'époque, comme Pline l'Ancien ou Aristote, racontaient dans leurs écrits comment produire ce pourpre de tir qui nécessitait un long processus de broyage des glandes salivaires des escargots de mer pour extraire le précieux pigment. Et Dieu sait si ça fait mal de broyer des glandes salivaires.
C'est incroyable.
On raconte même qu'il fallait tremper les escargots de mer dans l'urine pour optimiser le processus.
Qui a inventé le processus la première fois?
Alors, cette couleur a progressivement disparu, probablement parce que les escargots de mer se font de plus en plus rares. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un escargot de mer, moi.
Mais vous venez en Vendée, vous ne venez pas assez souvent.
Pourtant, vous faites du paddle.
Oui, il en fallait un très grand nombre pour produire une petite quantité.
Non, une claque sur le nez, c'est fait.
Voilà.
Bon, Cécile, hélas, on va devoir se séparer.
Désolé, j'ai essayé de vous convaincre, mais vous ne m'avez pas suivi.
On va vous dire bye bye.
Merci, au revoir.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1, 16h-17h, Sophie et les copains.
Vous écoutez les meilleurs moments de Sophie et les copains comme chaque dimanche entre 16h et 17h sur Europe 1. Et c'est Jeff qui va maintenant tenter sa chance pour peut-être décrocher le jackpot. Pour cela, il faut bien sûr répondre d'abord correctement à 4 questions de culture générale. Voici la première, posée par Sophie Davant, avec tous ses copains Clément Lanoux, Magali Ripoll et Nora Malagré.
Bonjour Jeff.
Coucou. Et bonjour les copains, les copines et Sophie.
Bonjour. Salut Jeff. Qui nous appelle d'où?
Ben, je vous appelle de Istres, dans les Bouches-du-Rhône.
Mm-hmm. Où vous faites quoi?
Ben, je suis retraité, donc je fais plein de choses.
Ouais. Très actif. Vous faisiez quoi avant?
Alors, avant, j'ai fait deux choses. J'étais surtout photographe en tant que directeur artistique. Et après, j'ai basculé dans faire les affaires grand compte dans la sécurité incendie. Voilà.
D'accord. Vous continuez à faire de la photo?
Oui, toujours. Ça, c'est ma première passion. Et ça, oui, je continue toujours. Oui.
Argentique?
J'ai fini l'argentique parce que bon, ça devient de plus en plus difficile. Et puis le labo, ça prenait un peu trop de place. Bon, puis c'est vrai qu'avec le numérique, c'est beaucoup plus facile. Et puis bon, maintenant, on a très bons résultats.
Qu'est-ce que vous aimez photographier, Jeff?
Alors, à l'heure actuelle, moi, je photographie beaucoup tout ce qui est paysage, les animaux aussi.
Ouais.
Ça, j'aime bien. Je me suis doté d'un gros téléobjectif pour faire des photos d'animaux en vol ou en surprise. Voilà.
D'accord.
En gros, c'est ça, la chasse aux animaux.
En surprise, photo. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas rendez-vous avant, les animaux. C'est vraiment le chat, je vais poser.
Moi, j'aime bien le travail de Peter Bird.
Ah ouais,
très, magnifique,
très beau.
Ce mélange de photos, de textes, de dessins.
Sublime,
j'aime beaucoup
sublime.
Ce qu'il fait. Vous nous écoutez régulièrement, Jeff?
Ah oui, depuis très longtemps. Ça fait peut-être une trentaine d'années que j'écoute Europe 1. Moi, je rentre dans ma voiture, c'est Europe 1 qui est tout de suite allumé.
Bon. C'est super, sympa. Super. Et vous n'avez jamais été infidèle?
Si, mais pas à une radio. Mais...
À un moment, j'avais tenté une autre radio, mais je suis revenu à Europe 1.
Ah, bravo, Jeff, super. On va jouer en musique, Jeff, avec Magali qui va vous expliquer ce qu'elle attend de vous.
On se croirait dans un bar pour un cocktail. Alors j'attends de
elle
vous, mon
belle,
cher
là,
Jeff.
Elle est belle, vous sortez de tournage ou quoi aujourd'hui, là, l'habillée en noir et blanc?
Alors justement, c'est exceptionnel. Je suis un petit peu classe, un tout petit peu.
Parce que vous avez un rendez-vous avec votre amoureux.
Non, sinon je me serais habillée, je m'en fous. Sinon...
Ah non, c'est pas vrai. Non, ma chérie, je t'embrasse.
Qu'est-ce que... Non, ce soir, j'ai effectivement justement un petit cocktail. Alors, je vais être obligée de boire et de manger
oui.
Les petits fours, n'est-ce pas? Donc, je me mets déjà dans l'ambiance. What do you want to drink?
Alors, qu'est-ce que vous attendez de Jeff?
Arrête, te moque pas de moi, toi, avec ta salopette. Là, c'est arrête où je t'emmène avec moi ce soir.
Elle parle à Coluche, hein, si vous nous rejoignez.
Alors, j'attends de vous, mon cher Jeff, que vous reconnaissiez le nom du groupe. Allez, c'est le minimum que je vous demande de la chanson que je vais vous interpréter. C'est-à-dire, je vais vraiment jouer trois notes. Je vais faire un blind test gimmick. Ça dure deux heures. Vous reconnaissez ?
Alors, Jeff.
Ça me dit quelque chose.
Ah, je suis sûre que vous connaissez. Les copains,
moi je l'ai, moi je l'ai complètement. Moi,
j'étais sûr que vous.
On l'a, on est fans.
Ah ben, on est vraiment pile de la génération et je crois qu'il y a quelque chose à fêter aujourd'hui.
Alors peut-être que Jeff, il n'est pas de cette génération-là non plus.
Non, c'est vrai, pas forcément, mais on peut connaître.
Peut-être que Jeff n'était pas.
C'est pas un groupe français.
Non, c'est un groupe de Seattle.
Je suis pas sûre. Peut-être que les copains peuvent vous aider, Jeff.
On va vous aider.
On va donner un petit indice. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le triste anniversaire de la disparition de la tête, du cerveau de ce groupe.
Ah bon ?
Ouais. Ça a l'air de...
C'est un groupe qu'on adore atteindre.
C'est un Qu'est-ce groupe qu'on aime où ils ne se lavaient pas beaucoup. Ils ne se nettoyaient pas tellement, ils avaient les cheveux gras. Alors, il y a une expression...
Ah, c'est pas Nirvana ?
Ouais, ouais. Vous voyez, quand on parle cheveux gras...
Ah oui, voilà, là, j'ai trouvé.
Cela fait déjà 30 ans que Kurt Cobain est parti.
En 94,
incroyable.
Jour pour jour. Et ça a failli être le premier album que j'ai failli acheter, puisqu'en fait, je voulais, comme tout le monde, écouter Nirvana. Je devais être en 6e. Mmh. Et j'envoie ma grand-mère acheter mon premier album. Elle me dit, prends ce que tu veux. Et j'ai juste vu Nirvana, je l'ai pris. Je dis, je vais faire comme tous les copains, avoir du bon gros rock. Et c'était un autre truc, Nirvana, qui était du chant lyrique.
Mais non!
Je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai ouvert mon premier CD. C'était sympa, mais c'était pas ce que j'attendais.
Qu'est-ce que j'étais fan. Moi, j'étais amoureuse de Kurt Cobain. Je m'habillais comme eux. J'étais dans un parfait mimétisme. En plus, je suis blonde. Alors vraiment, j'avais l'impression de faire partie du groupe.
Courtney.
Non, ça a quand même révolutionné la musique, Magali, cette histoire.
Alors,
qu'est-ce que vous souhaitiez nous raconter sur Nirvana ?
On pourrait en parler pendant des heures, mais Smells Like Teen Spirit, c'est le titre de cette chanson, qui est le premier single du deuxième album Nevermind de Nirvana. Il est sorti en 1991. Il a joué un rôle, justement, comme le disait Enora, c'est un rôle pivot dans l'histoire du rock en popularisant une esthétique grunge. Le titre est inspiré de la phrase Kurt smells like teen spirit, ce qui veut dire Kurt a l'odeur de l'esprit adolescent. Alors c'est une phrase qui a été taguée sur un des murs de sa chambre par une amie et il découvre par la suite que c'est en fait le nom du déodorant que portait son ex-petite amie. Alors, comme si en France, on avait par exemple écrit je sens le narta, je suis fraîche. Et ça se voit. Bon, bien qu'il ait parfois...
Le narta ou le bien-être ou
voilà.
le reposé. Voilà.
Ushuaïa, c'est ça. D'ailleurs, il sent très bon celui-ci. bien qu'on l'ait parfois accusé de plagiat, parce qu'il ne s'en cache pas, il s'est directement inspiré de la structure musicale de son groupe fétiche, les Pixies. C'est ce qu'il met très en avant dans cette chanson, les couplets très très calmes et les refrains ultra.
Est-ce que ça va bien mes éternuements sur la musique de Nirvana?
Je pensais que ça faisait partie du morceau.
Moi, je pense que c'est le déodorant. J'en ai mis trop.
Ah oui, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Bon, en tout cas, ça fait une bonne réponse pour Jeff. Bravo, Jeff. On va enchaîner avec une question actualité. Une nouvelle qui nous vient d'Italie, de Venise, plus particulièrement avec Paris. C'est l'une des villes les plus visitées au monde. Et justement, pour contrer le tourisme de masse, la cité des Doges a pris une décision radicale. Laquelle ? Est-ce qu'elle va faire payer 5 euros la visite de la ville pendant la journée ? Est-ce qu'elle va créer une réplique de la ville dans la lagune voisine ? Ou est-ce qu'elle va augmenter de 10% les tarifs des hôtels et des restaurants ?
Oula, oula là, Jeff, vous avez une idée ?
Alors moi, j'ai eu une vague idée, j'avais entendu dire ça, qu'il ferait payer aux touristes...
L'entrée de la ville, quoi.
L'entrée de la ville, oui.
Ouais, ça me dit quelque chose aussi.
Oui, complètement, non, Clément ?
Alors, moi, j'y suis allé il y a quelques semaines et je peux vous confirmer que c'est la bonne réponse. Je pense que c'est ça. Je choisis ça.
Donc, est-ce qu'on bloque Jeff ?
Ben, que les gens vont payer l'entrée de la ville.
D'accord, et c'est une bonne réponse. Et bravo,
bravo
à vous.
Bravo,
une mesure qui sera effective dès le 25 avril. Donc vous, elle est c'est déjà effectif.
Ah, moi, j'y suis allé, c'était pas effectif, mais on m'a dit, attention, bientôt ce sera payant et attention, bientôt ce sera sous l'eau. Donc dépêchez-vous d'aller visiter Venise.
C'est vrai, le niveau de l'eau a monté.
C'est, alors, par saison, c'est très compliqué. Il y a les pieds dans l'eau, mais ils essaient de tout faire pour limiter, mais il n'y a pas grand-chose à faire.
Moi, j'y suis allée une fois, c'était très inondé anormalement. Quoi.
C'était les larmes des gens.
Si le niveau de l'eau monte à cause du réchauffement, forcément, ça devrait être inondé. Il n'y aura pas que Venise, d'ailleurs, qui sera inondée, hélas. Mmh. Alors, le maire de Venise a déclaré qu'il s'agit d'une expérimentation. C'est la première fois que ça se fait dans le monde. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de réguler l'afflux de touristes. Mais si, au passage, on peut gagner un peu d'argent, n'est-ce pas? C'est quand même pas mal. Elle ne s'appliquera pas tous les jours, cette taxe, mais seulement les jours de très forte affluence, comme les week-ends et les vacances. Eh bien, déjà, deux bonnes réponses pour Jeff. Il en faut encore deux pour tenter le jackpot.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence.
Elle aurait dû fêter ses 14 ans. La petite Shannon, 13 ans, sera enterrée demain.
Shemseddine, battue à mort pour avoir osé échanger des messages connotés sexuellement avec la sœur de deux des assassins présumés.
L'incapacité de l'État royal à tenir les comptes publics a entraîné en 1789 le plus grand cataclysme de l'histoire de France.
Souhaitez-vous un référendum sur la politique migratoire? Vous dites oui à 69%.
Tout le monde est content, les Iraniens ont défié le petit Satan. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer.
On en apprend des choses sur Europe 1. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Europe 1, 16h-17h, Sophie et les copains.
La suite des meilleurs moments de Sophie et les copains, comme chaque dimanche, entre 16h et 17h sur Europe 1. Et Jeff a déjà rempli la moitié du contrat avant de pouvoir tenter le jackpot. Deux bonnes réponses sur quatre. Voici sa troisième question, posée par Sophie Davant, en compagnie de ses copains du jour, Enora Malagré, Clément Lanoux et Magali Ripoll.
Allez, avec Jeff, on joue au qui ou quoi.
Europe 1, le qui ou quoi.
Je précise que Jeff a déjà deux bonnes réponses et qu'il en faut encore deux pour pouvoir tenter un jackpot à 500 euros. Là, le principe est simple, Jeff. Il faut que vous écoutiez les indices qu'on va vous donner et que vous deviniez de qui ou de quoi on parle.
Il a eu cette idée folle d'un jour réformer l'école.
Il a été président du Sénat, mais il est mort 3 semaines après.
Il avait de grosses rouflaquettes.
Il a fait plein de choses dans sa vie. Il a été avocat, journaliste et même maire de Paris.
Il a survécu à un attentat.
Clément, il l'a.
Alors, j'ai l'impression.
J'aurais pensé, mais j'en suis pas sûr.
Moi, je suis sûr que vous l'avez dit.
Jules Ferry, non?
Bien sûr, bravo.
Les doigts dans le nez.
Il est né le 5 avril 1832. Avocat, journaliste, maire de Paris, président du Sénat. On retient surtout ces lois scolaires de 1880 qui vont rendre l'école laïque, gratuite et obligatoire pour les petits Français. Trois bonnes réponses.
Bravo,
pour vous, Jeff.
Ah
ouais, ça
bravo.
Va bien.
Il
ça
se balade,
bien.
Il se balade, ah ouais. Jeff.
Autant sur Nirvana, il a besoin de nous tout à l'heure. Autant sur Jules Ferry, il est là.
Ça ne peut pas être bon dans toutes les matières.
Évidemment. J'ai tous les albums de Jules Ferry, moi, je les adore. Ouais.
Alors, voici une question Hollywood.
Ah, j'adore.
Alors, vous avez reconnu la musique.
Indiana Jones.
Ouais. Et on imagine tout de suite Harrison Ford, son torse en sueur.
Oh là,
et son
regardez-la.
Je me calme. Voici ma question. Si on se balade sur Hollywood Boulevard contre toute attente, il y a 2 étoiles dédiées à Harrison Ford. Pourquoi? 3 propositions. Il y en a une pour Harrison et une autre pour Han Solo. Il y en a une pour le comédien, une autre pour le comédien de doublage. Ou il y en a une pour lui et une autre pour un autre comédien qui s'appelle aussi
Harrison Ford.
Attendez, la 2, c'est quoi? Pardonnez-moi, Sophie, j'ai pas compris.
Il y en a une pour le comédien et une autre pour le comédien de doublage, pour le monsieur qui le double.
Ah, ce serait hyper élégant, ça.
Oui, il y en a une pour lui et une autre pour un autre comédien qui, lui aussi, s'appelle Harrison Ford.
Jeff, qu'est-ce que vous en pensez, ouais, Jeff? Moi, si je peux vous donner un petit indice comme ça, je me dis, le comédien de doublage, il y a tellement de langues que ce serait pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on va pas favoriser une langue plutôt qu'un autre. Donc,
ça,
celle-ci, je l'enlèverais.
Ça, c'est sûr que non.
Oui, peut-être non. Enfin, j'aurais presque vu pour Yann Solo et puis pour... Et j'en suis passé.
Non, moi, je pense qu'il y a un autre Harrison Ford. Il y a un autre Ford. En tout cas, enfin, Ford, ça, il y en avait. Mais
Oui.
Il y a, à mon avis, dans des cinémas extrêmement anciens, dans des films anciens, il devait y avoir un autre Ford, je pense. Moi, je miserais. C'est le plus crédible, non?
C'est un nom quand même assez répandu. Donc, il y en a peut-être eu un avant, qu'on a même moins connu, nous. Bien avant l'époque de Jules Ferry.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jeff? On bloque cette réponse?
Ben oui, on va bloquer cette réponse.
Ouais, j'espère que je vous...
Il y aurait un autre Harrison Ford.
Oui, sûrement.
Et c'est important, car c'est la quatrième réponse, quand même. Si c'est une bonne réponse, vous tenterez le jackpot. Et c'est une bonne réponse.
Oh, je suis déçue, je pensais qu'il n'y en avait qu'un.
J'ai eu peur, elle a refait sa Josiane d'honneur. Celui-là, il est né en 1884, il est mort à 73 ans. Il a eu beaucoup de succès au théâtre à Broadway.
Ah,
et il a joué dans 84 films de cinéma muets.
Ah, voilà, un temps que nous n'avons point connu.
Voilà.
Voilà.
Quatre bonnes réponses.
Yes, Jeff.
Donc, Jeff, vous déchirez tout.
Il va falloir me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Vous allez tenter le jackpot. Jeff, est-ce que vous avez une question à nous poser avant que je ne vous en pose?
Ben, je me souhaite bonne chance.
Bonne chance. On est avec vous, Jeff, on y croit.
On allait vous souhaiter.
Perdez pas de temps, hein, si vous savez pas, surtout.
Non, d'accord.
Alors,
je passerai si je sais pas.
Jeff, 10 bonnes réponses en moins d'une minute. On est prêt?
Oui.
Top chrono. Quelle reine chante libérée, délivrée?
La reine des glaces, là.
Quelle reine du disco a chanté Hot Stuff et I Feel Love?
Je passe.
Rania est reine de Jordanie ou de Syrie?
Jordanie.
Comment se prénommait le fils de Charles de Gaulle qui vient de nous quitter, Philippe ou Jean?
Philippe.
On dit
Philippe.
Jeter l'eau propre ou jeter l'eau propre?
Jeter l'eau propre.
Le prénom de la chanteuse de Jaja, c'est Aya ou Ayana?
Aya.
Le tueur en série Le Grêlé a participé à Tout le monde veut prendre sa place ou aux 12 coups de midi?
Aux 12 coups de midi.
Quel Robert va jouer dans Batman 2 en 2026?
Je passe.
Quel était le prénom de Dupont de Ligonnès?
Je passe. Oui,
de quel instrument joue Ibrahim Malouf?
Violon, je pense.
On a découvert Nolwenn Leroy dans Starac 1 ou Starac 2?
Starac 1. Deux.
Oh là 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 là, Jeff.
J'ai l'impression que ça fait 10 bonnes réponses, tant que j'ai mal compris. C'est le stress, Jeff.
Alors, la reine qui chante libérée, délivrée.
Reine des neiges.
La reine
des neiges.
On ne peut plus supporter cette chanson.
La reine des glaces, vous m'avez dit, ils sont durs, là. Vous auriez pu valider, les amis. Ouais, d'accord. Bon, ensuite, quelle reine du disco a chanté Hot Stuff?
La reine des glaces.
Gloria Gaynor.
Oui. Non,
pas du tout. C'est ce que je raconte. Rick Azaray.
On dit jeter l'opprobre ou jeter l'opprobre?
L'opprobre.
Non,
c'était l'opprobre. Toujours pas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vous reposer les questions, ça n'a pas changé.
Oui, éventuellement.
Jeter l'opprobre, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire le malheur, là, jeter le mauvais œil.
Ouais.
Non, c'est ça?
Ça veut dire.
Critiquer, quoi.
Oui, voilà, exactement. Voilà. Critiquer.
Voilà.
Quel Robert va jouer dans Batman 2, Robert?
Badinter, évidemment.
Pattinson.
Oui, bien joué. Et de quel instrument joue Ibrahim Malouf?
La trompette.
C'est presque comme le violon, mais sans archer.
Ouais.
Et avec la bouche.
Comme Ivan Cugius et Nolwenn Leroy dans Starac
2.
Deux.
Oui.
Bien joué.
Super. Et ben, on vous embrasse bien.
On vous embrasse et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et merci d'avoir joué avec nous et bravo à vous.
Merci vous aussi, vous êtes tous sympathiques.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
C'est perdu, malheureusement, pour Jeff. Et juste avant de retrouver la suite des meilleurs moments de Sophie et les copains, voici un retour en 2008 avec Francis Cabrel. Ça s'appelait La robe et l'échelle. C'est rien que pour vous et c'est bien sûr un iconique Europe 1.
T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après. Y'a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler. Et comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue. Et par le jeu des transparences, ces fruits dans les plis du tissu qui balance. S'agissait pas de monter bien haut, mais les pieds sur les premiers barreaux. J'ai senti glisser le manteau de l'enfance. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé. Un arbre s'est vite fendu, le bois, quelqu'un a dû le vendre. S'il savait le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs en suis-je descendu, de tous ces jeux de transparence, ces fruits dans les plis des tissus qui balancent. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. À la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. Tout s'envole en ombre légère, tout sauf ce goût de fièvre et de miel. S'est envolé dans l'espace, le sourire, la robe, l'arbre et l'échelle. À la vitesse où le temps passe, rien, rien n'efface l'essentiel. D'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. Et voilà que du sol nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel.
C'était La robe et l'échelle, Francis Cabrel, un iconique Europe 1, un titre qui a marqué l'histoire d'Europe 1 en 2008. Demain soir, c'est Elisabeth Assayag et toute son équipe que vous allez retrouver pour La France bouge, comme tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, de 20h à 21h sur Europe 1. Elisabeth met chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les start-up qui osent et qui réussissent. Demain, écoutez La France bouger dans le secteur du tourisme. Elisabeth Assayag recevra Philippe Glohagen, fondateur du Guide du Routard. La France bouge, c'est donc demain, de 20h à 21h, avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et pour l'heure, c'est la suite des meilleurs moments de Sophie et les copains. Vous le savez, on se retrouve chaque dimanche de 16h à 17h sur Europe 1. Et c'est Thierry qui va maintenant tenter sa chance pour peut-être décrocher le jackpot. Pour cela, bien sûr, il lui faut d'abord 4 bonnes réponses aux questions de culture générale. Des questions posées par Sophie Davant avec ses copains Joe Hume, Bernard Montiel et Caroline Marjorie.
Bonjour Thierry.
Bonjour Sophie, bonjour les copains et les copines.
Salut Thierry. Thierry. D'où appelez-vous ?
Alors je suis à Fontenay-sous-Bois, à côté de Paris.
Ah, c'est pas loin.
Et vous faites quoi, voilà. Thierry, dans la vie ?
Oh, cette voix glamour que vous prenez, Sophie.
Mais je fais ce que je veux. Vous faites quoi dans la vie?
Là, il rougit actuellement. Là.
Je suis chargé d'éducation pour un organisme de vacances.
Chargé voilà. De
communication.
Communication.
Ah, communication.
D'accord. Ouais. Alors, vous avez l'habitude de jouer, vous, Thierry, puisque vous avez participé à plusieurs émissions de télé?
C'est vrai. Alors, j'ai participé à des émissions quand j'étais étudiant. Et notamment, Tourner Manège.
Non, ah, c'est
comme ça que vous avez trouvé votre amoureuse
Alors, c'est pas comme ça que j'ai trouvé mon amoureuse. Ah. Mais non, en fait, j'étais étudiant, pour tout vous dire. Et à l'époque, voilà, j'avais besoin d'un petit peu de sous. Et du coup, en participant à Tourner Manège, ça permettait voilà, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards.
Et
c'est pas indiscret de savoir combien ils étaient payés pour faire Tourner Manège.
Vous ne savez pas que c'était payé,
combien vous aviez touché?
C'était peut-être pas payé. C'était payé ou il y avait des...
Non, c'était pas payé.
Mais on pouvait gagner des sous.
Voilà, on pouvait gagner des sous, mais à l'époque, c'était en francs, vous voyez, c'était pas là. Mais pour un étudiant, quand même, ça comptait.
Vous êtes un fidèle auditeur d'Europe 1. On va jouer avec les archives, justement, d'Europe 1.
Vous êtes bien sûr Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Combien ?
Nous sommes en 2009 et l'invité c'est Danny Boone. Il vient de signer avec les Ch'tis le plus gros carton du cinéma français et il vient également de recevoir la Légion d'honneur.
Forcément sur Europe 1.
On parlait de la Légion d'honneur tout à l'heure. Quel rapport vous avez-vous avec Nicolas Sarkozy qui vous l'a remis cette Légion d'honneur? Vous aviez fait une projection des Ch'tis à l'Élysée.
Monsieur le Président de la République,
oui, avec vous,
une très bonne relation. On a voulu m'asseoir à côté de lui. J'ai dit non, surtout pas. Parce que sinon, je veux pas qu'il se sente obligé de rire au film. Donc je me suis mis un peu plus loin avec ma mère.
Ouais.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a mis ma mère à l'aise.
Alors, il était reçu par Marc-Olivier Fogiel. La maman de Danny Boone était à la réception de la Légion d'honneur et visiblement, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, a su la mettre totalement à l'aise. Voici ma question. Quelle était la principale angoisse de la maman de Danny Boone? Qu'il faille manger assis, qu'on lui demande de faire l'accent du Nord ou que la broche de son manteau tombe par terre.
Moi, j'ai
je crois qu'en voyant les yeux de Bernard, il a une bonne idée.
Non, parce qu'on en a parlé récemment.
Bernard n'était pas invité.
Non, je n'étais pas invité. J'aurais pu pourtant à l'époque, mais non, j'y étais pas. En revanche, je suis étonné qu'il y ait des dîners. Il n'y a plus de dîners maintenant après une Légion d'honneur, mais bon. Moi, je penserais plutôt à l'accent ch'ti.
Ouais, mais j'allais dire la même chose.
Ouais, l'accent ch'ti.
J'allais dire la même chose.
L'accent ch'ti.
Parce qu'elle l'avait pas, elle l'avait pas du
vous
tout.
Vous auriez dit quoi, Thierry? Vous pensiez à quoi?
Je suis pas sûr, hein.
Bah, c'est vrai que ça tomberait sous le sens, ça reste.
C'est cohérent avec le.
Cohérent.
Oui, parce que le manteau, de toute façon, puis dîner assis, la broche, on dîne pas debout.
C'est bien accroché, ouais. La broche.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Thierry?
Bah, écoutez, je crois que je vais suivre ce que dit Bernard.
Oulala,
j'espère que c'est bien.
Il a porté bonheur à Élodie.
Il a porté bonheur à Élodie.
Exactement.
Voilà, donc, allez, on va se lancer. On va partir sur l'accent ch'ti.
Très bien, je bloque votre réponse et on écoute la réponse.
On est arrivé, elle avait qu'une chose en tête, elle me disait « On mange pas assis hein. ». On mange pas assis parce qu'elle avait peur d'être assise et
d'être maladroite,
de pas bien... Donc après, elle est venue me voir, elle me fait « Ah, oh, je suis soulagé ». Je dis « Pourquoi ?»« C'est un buffet ». Voilà, et après, le président est venu, est allé lui parler et a réussi à la mettre à l'aise, quoi. Donc j'étais très heureux de ça.
C'est horrible.
Thierry,
oh là
je présente tes excuses.
C'est horrible, Thierry.
Ah, mais je suis désolé, moi.
Il y a eu un trou d'air, Thierry.
On est désolé.
Comment ?
Il y a eu un trou d'air, là. La vraie.
Ça aurait pu être horrible. Une hypothèse, mais moi je suis pas d'accord avec vous. J'étais pas d'accord avec vous sur cette proposition parce qu'elle devait être très fière de son accent du Nord, la maman de Danny Boone.
Oui, mais moi
c'était
je me
le propos du film.
Moi,
quand
ce qui me faisait peur, c'est que justement, elle pense qu'on tourne ça un petit peu à la blague.
Exactement.
Et qu'elle en avait peur.
Ouais,
c'est
ouais.
pour ça que j'avais pensé ça. Moi, j'ai de nombreux amis ch'tis,
oui.
Évidemment, qui ne veulent pas et qui le font exprès et qui demandent.
Des ch'tis connus ou des ch'tis
connus.
Il vous arrive d'avoir des amis
inconnus. Oui, mais vous les connaissez pas. Donc c'est pas la peine de les citer. Mais non, alors justement, et à chaque fois, la compagne demande arrête, ne nous fais pas la chance ce soir, voilà, t'es gentil.
Je pensais un peu à ça.
Moi, j'adore, ça fait, j'adore, moi.
Bon, Thierry, on va devoir se séparer. Ah,
il
n'y
a pas de souci.
Ça a été bref, mais intense, on va dire.
On ne m'en pas, je l'aime quand même.
Pour rappeler Thierry.
Merci.
On vous embrasse, Thierry. Bonne fin d'après-midi à vous.
Merci.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûle. La France entière et le monde assistent impuissants au drame.
Et la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous.
Cinq ans après, Notre-Dame de Paris s'apprête à rouvrir ses portes, plus resplendissantes que jamais.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Europe 1 vous propose un podcast inédit autour de témoignages et d'archives sonores exceptionnelles.
Ce qui m'a marqué plus, c'est le regard très déterminé des pompiers.
Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Europe 1, 16h-17h, Sophie et les copains.
Sophie et les copains, les meilleurs moments, comme chaque dimanche sur Europe 1 entre 16h et 17h. Et place maintenant à un nouvel auditeur d'Europe 1, nouveau candidat, c'est Daniel, qui lui aussi va répondre aux questions de culture générale pour peut-être décrocher le jackpot d'Europe 1. Voici sa première question, posée par Sophie d'avant, avec en soutien toute la bande des copains, Joe Hume, Enora Malagré et Daniel Moreau.
Bonjour Daniel.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour. Salut Daniel. Ah, je me demandais où se situait Saint-Pierre de Mézoargues. Je sais que c'est dans le sud, mais c'est dans
vous
quel
avez une
sud
idée maintenant. Côté d'Avignon.
Vous êtes agriculteur. Nous avons eu un maître de chez et maintenant un agriculteur.
Ouais, on reste dans les fruits.
On reste dans les fruits. Vous produisez quels fruits, Daniel? Alors,
on va bientôt commencer par les cerises, dans un mois environ. Mmh. Et puis on enchaîne avec les abricots, les pêches et nectarines. Ah,
Et des melons? Non?
Non, non, non.
Pas de
moi,
melon.
C'est tout ce qui est sur les arbres, pas au ras du sol.
Et ça va la météo pour vous cette année?
Pour le moment, c'est bien.
La production sera bonne.
Ça, on ne peut jamais le savoir exactement à l'avance, mais ça se présente plutôt bien.
Alors, vous êtes un auditeur plutôt récent. Expliquez-nous comment vous nous avez découvert hier.
Non. Ça fait au moins environ. J'avais l'habitude d'écouter le matin et sur Europe 1, parce que je ne peux pas vous écouter tous les jours en travaillant, c'est pas toujours évident. Mmh. Et je suis tombé dessus par hasard et ça m'a bien plu, votre bonne humeur communicative.
Ouais.
Et puis apprendre des choses, c'est toujours intéressant.
Et voilà, on est bien d'accord avec vous. C'est un petit peu le résumé de l'émission, bonne humeur.
Elle est trop mignonne, Sophie, elle a un grand sourire quand elle voit que les auditeurs arrivent. Elle est contente, elle est trop mignonne.
Il vaut mieux ça que le contraire.
Mais non, mais vous doutez, ce que je veux dire, c'est que vous doutez encore de vous, je comprends pas.
Mais il n'y a que les imbéciles qui ne doutent pas d'eux.
Ah, ça veut dire que je suis très con.
N'est-ce pas, Daniel? Vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Je vous ai tout à fait raison.
Voilà. Allez, on va jouer avec les archives d'Europe 1.
Jingle préféré.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Combien? Oui.
Et c'est l'occasion de retrouver Frédéric Mitterrand qui nous a coûté récemment, le 21 mars dernier, l'ancien ministre de la Culture, que j'aimais beaucoup d'ailleurs personnellement, a été à la tête d'une émission littéraire sur Europe 1 de 1997 à 2006. Ce jour-là, il recevait Françoise Sagan et déjà en 1996, on disait que Paris... C'est plus comme avant. Écoutez.
Est-ce que vous pensez que quand même beaucoup de choses se sont perdues? Vous habitez sur la rive gauche et par exemple, on est frappé de voir comme à Saint-Germain-des-Prés maintenant, il y a partout des boutiques de mode.
Ah oui, ça c'est la catastrophe. Là, il y avait des cafés, des gens qui traînaient aux tables des cafés en plaisantant. Il y a des... Comment on appelle ça? Des chiffres, pas des chiffres, des...
Des fripes, enfin.
Des fripes. Il y a plus ce côté village, comme on disait.
Enfin, des fripes, c'est des jolies fripes, hein, quand ouais, même. Pas...
Mais elle a bien raison.
C'est pas les fripes du 20e. Hein, voilà. Moi, hein.
Alors, il la reçoit à l'occasion de la sortie du roman Le Miroir égaré, sorti 42 ans après le premier roman de Sagan, Bonjour Tristesse. Frédéric Mitterrand trouve le style de Sagan identique à ses débuts, que son écriture est comme au premier jour. Que va répondre l'écrivaine? Est-ce qu'elle va lui répondre qu'effectivement elle n'a pas fait de progrès, qu'à ses débuts elle faisait des fautes que son éditeur corrigeait, que oui, elle a toujours un cerveau de jeune fille?
Oh là là.
Moi j'aime bien la première.
Oh là là là. Alors Daniel, à votre avis?
Mon idée serait la première.
Ouais. Moi j'aimais bien la première, mais ouais. Ouais.
Je vois bien Sagan, tu vois, un peu pince sans rire comme ça. Et dire,
c'est vrai que j'ai pas progressé.
Non, elle ne dirait pas comme ça, on comprendrait pas du tout ce qu'elle
dit. Mais on comprend pas bien ce qu'elle dit, François Sagan, je vous signale.
Laura, ça a l'air de notre avis.
Je sais pas, la formule cerveau de jeune fille me. Je sais pas.
Alors, c'est pas la peine de me regarder parce que je ne connais pas la réponse.
Non, on essaye,
c'est sûr.
Si les gens savaient à quel point on se retourne vers ce
livre. Sinon, j'étais vraiment devenue excellente.
Bon, alors Daniel, peut-être suivez votre instinct, puisque c'est là aussi l'instinct des copains, en majorité, donc je pense que ça doit
alors
être.
Alors Daniel, qu'est-ce qu'on bloque?
On va dire la première.
D'accord, donc effectivement, elle n'a pas fait de progrès. On écoute la réponse.
Dans ce livre, dans Le Miroir égaré, on se dit que peut-être vous auriez pu l'écrire en 1954 aussi. Je veux dire, il y a une sorte de fidélité à vous-même à travers toute votre œuvre qui est extraordinaire. Finalement, vous n'avez pas été entamé ni par le succès, ni par la... par rien.
Non, j'ai même pas fait de progrès.
J'adore cette réponse.
Merci à vous.
Alors,
j'étais en train de baliser juste avant, mais j'avais deviné.
Le Miroir égaré sera son dernier livre. Elle meurt en 2004. Son épitaphe sera Sagan. Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. C'est assez joli.
Ouais. C'est magnifique. Ouais.
Une question, invention. Alors, on aurait pu parler de Daniel Moreau, mais
c'est pas
tout à fait de ça que nous avons parlé. On va parler de l'invention de la bombe, plus particulièrement de la TNT. De son nom scientifique, trinitrotoluène, il a été découvert par un chimiste allemand en 1863.
Changement d'ambiance.
Le problème, c'est qu'on ne s'est pas tout de suite servi de la TNT comme explosif, et ça a été un problème à cause de sa forte toxicité. Comment s'est-on servi de la TNT avant de découvrir ses capacités explosives?
Je crois que je sais.
Un cocktail.
On s'en est servi pour teindre les vêtements, on s'en est servi comme répulsif d'insectes, ou on s'en est servi pour recevoir la télévision numérique terrestre.
Bah ouais, c'est ça que j'avais comme réponse.
Nous, la TNT, ça correspond à ça.
Ouais, c'est ça.
Hein, bah oui. Non, c'est... Alors, à votre avis, Daniel.
On a des auteurs. Hein.
Daniel.
J'hésite entre les deux premières, mais
oui.
Je dirais plutôt pour les insectes.
Alors, moi, j'aurais plus penché pour la première, parce que dans la question, Sophie, vous disiez que ça avait créé un problème de toxicité.
Oui.
Et je me dis, si on s'en servait pour teindre les vêtements, c'est que les gens qui avaient des vêtements teints à la TNT devaient avoir des problèmes de peau après. C'est pas n'importe qui passe.
Je suis d'accord, j'ai un reste de culture et je pense qu'il me semble que ça me dit quelque chose. Ouais.
Alors, j'ai arrêté sur les insectes, mais je rejoins du coup mes copains parce que j'ai aucune personnalité.
Alors, Daniel, à vous de bloquer...
Je vais vous suivre aussi.
Bon, très bien. Donc, on s'en est servi pour teindre les vêtements. Et c'est une bonne réponse. TNT était d'abord un pigment jaune, très prisé pour teinter les textiles. On a découvert que la TNT avait un pouvoir explosif 30 ans après sa découverte. À cause de sa faible sensibilité, il a fallu inventer le détonateur efficace. En attendant, la TNT a fait de nombreuses victimes à cause de sa toxicité, après de nombreux morts avec son utilisation dans les torpilles. Merci, monsieur Julius Wilbrandt, le chimiste allemand.
D'où l'expression exploser en vol, je crois, non?
C'est vrai.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Dans un instant, Daniel va peut-être pouvoir tenter le jackpot. Ce sera dans la suite des meilleurs moments de Sophie et les copains. Juste après Lucent, voici Sweet Tooth. C'est une nouveauté Europe 1.
I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down. But when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things making feel good things? They happen, never fix things. Oh, why are all the bad things making feel nice things? They never think twice. When you're around, I'm lost in a candy shop. And I tell myself it's gonna last when I know it's not. Why are all the bad things to make it feel good things? They have never fixed things. Whoa. Why are all the bad things to make it feel nice things? They never think twice.
C'est Lucent avec Sweet Tooth, une nouveauté Europe 1. Et place à la suite des meilleurs moments de Sophie et les copains, comme tous les dimanches entre 16h et 17h sur Europe 1. Et Daniel se rapproche doucement du jackpot d'Europe 1. Ah oui, plus que deux bonnes réponses avant de pouvoir le tenter. Voici la suite de son parcours avec Sophie Davant, ses invités, Majo et Martin Kretz, les nouvelles stars de l'immobilier en famille. Et puis toute la bande des copains, bien sûr, Daniel Moreau, Joe Hume et Nora Malagré.
On joue au chiffre du jour, Daniel.
Ah. Europe 1.
1 180 000 centimes. Non, je vais finir dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour.
Alors, c'est pas le prix d'une maison. Je vous donne le chiffre 4. À quoi correspond-il? Est-ce que c'est le nombre de pays dans lesquels on trouve une agence Kretz? Est-ce que c'est le pourcentage moyen de la commission que touche la famille Kretz sur leur vente immobilière?
Un indice.
Ou est-ce que c'est le nombre de fois où Daniel Moreau a demandé au Kretz s'il pouvait lui faire un prix d'année?
Bon, là, c'est cadeau, hein, Daniel. Hein.
Daniel.
Là, c'est cadeau.
J'opte pour la première réponse.
Le nombre de pays dans lequel on trouve une agence Kretz. Alors, vous n'avez pas dû regarder la saison 4. Alors,
c'est pas la troisième, je pense. Donc, ce serait peut-être la deuxième, alors.
Ouais, bien joué, c'est la deuxième.
Donc, oui,
en moyenne, bloque, après ça peut varier, hein, franchement, ça dépend des régions, en moyenne on va dire.
C'est Daniel, moyenne. On bloque la réponse alors.
Allez, on bloque
la deux. Ben voilà, donc.
On partage les.
Il a un peu spoilé.
Partage les gains.
C'est pas beaucoup, 4%. Non, mais vous avez vu les gains.
Ça dépend vraiment des régions.
Quand il y a une petite demeure à 12 millions.
Ça peut monter à 6% en fonction du dossier. C'est
oui,
compliqué.
Et puis parfois, on vous demande de négocier votre commission.
Oui, bah après, voilà, c'est le jeu. Hein. Chaque partie fait un effort pour approcher, pour closer.
C'est différent d'une agence immobilière classique? Le montant de la commission ?
Non, en moyenne, à Paris, on est entre 4 et 5% sur un mandat.
Très bien, non, parce que j'envisageais une reconversion. Bon, Daniel, on va jouer avec vous. On va jouer dans l'univers des crêtes, puisqu'on parle d'immobilier et de maisons de luxe. Eh bien, on va jouer sur cette idée-là.
Tu bluffes, Martini.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors, le principe du bluff, c'est que je vais vous poser une question et les trois copains vont vous faire une proposition. Mmh. À vous de trouver la bonne réponse parmi ces trois propositions. La maison la plus chère du monde, il paraît que c'est Buckingham Palace.
Mmh. Palace.
1,3 milliard d'euros, c'est l'estimation. Elle n'est pas encore à vendre, mais si vous recherchez une maison luxueuse à Londres, il y a toujours le 18-19 Kensington Palace Garden, un immense palais néo-géorgien estimé à 222 millions d'euros.
Wow. J'aime bien les 4% là.
Vous avez...
J'aimerais bien savoir qui a estimé.
C'est clair.
J'aimerais bien rencontrer.
Oui. Outre ses équipements luxueux, il y a un détail qui explique sûrement son prix. Mais lequel ? Proposition de Joe.
Alors, le Kensington Palace, il faut faire un petit peu d'histoire, c'est une demeure royale donc britannique qui à la base appartenait au comte de Nottingham, Daniel Finch, au XVIIe siècle. Et alors en 1689, le palais a été amélioré, il a été agrandi par le savant et architecte Christopher Wren. Il y a des pavillons qui ont été ajoutés à chaque angle du
Quand
bâtiment.
Quand il y a trop de détails, on y croit pas.
Des escaliers centraux, ils ont aménagé également un grand escalier, une salle de conseil, une chapelle et c'est là la particularité qu'il faut retenir, il y a également une galerie des glaces qui est absolument identique à celle du château de Versailles dont Christopher Wren était totalement amoureux.
Wren, c'est pour ça qu'il a voulu... comme la pluie ?
Non, W-R-E-N.
Ah pardon.
Wren. Je ne sais pas trop comment le prononcer.
Proposition d'Edora.
Voilà.
C'est beaucoup plus simple que ça. Tu mens si mal, mon frère. En fait, il est tout simplement fait, mon cher Daniel, dans le même marbre que celui utilisé pour bâtir le Taj Mahal. C'est tout simple. Dans les années 90, la bâtisse, elle était toute moisie, toute décrépite. Elle a été ravagée par un incendie. Un collectionneur d'art iranien la rénove et voit les choses en grand en faisant importer du marbre indien, le même qui compose le monumental Taj Mahal. C'est tout. Voilà. Merci.
Non,
c'est tout pour moi.
Daniel. N'importe quoi. Alors en fait, tout l'intérieur de la maison est très très bling bling. Hein, on pourrait même dire kitsch. Mais la cerise sur le gâteau, c'est ça qui fait le prix, ce sont les cuvettes des 18 toilettes qui ont carrément été dorées à leur fin par le meilleur artisan d'Angleterre, celui-là même qui s'occupe de tout ce qui est doré à Buckingham Palace, même les dents en or du roi Charles III, qui s'occupe de tout ce qui est en or.
Okay. Voilà. Quand tu t'assois dessus, t'as les couilles en or.
C'est
quoi.
Ça. Okay. Wow. Comment
vous avez une idée de la réponse, Martin? Ouais,
peut-être la galerie des glaces quand même de Christopher, non?
Alors Daniel, vous pensez à quoi?
Me faire confiance,
vous pensez à quoi?
Je suis là.
C'était un peu too much quand même.
Daniel,
c'est vrai?
Daniel,
oui.
Vous pensez
oui,
à quoi?
J'ai réfléchi, mais j'aurais plutôt tendance à écouter Martin, car là, c'est lui le spécialiste.
Ah, alors.
Je peux vous dire qu'il ne va pas les prendre, les 4%, là. Parce que c'est la Bretonne qui a raison.
Alors, à vous de trancher, à vous de bloquer une réponse.
Alors,
Martin, vous penchez pour la galerie des glaces de Versailles.
Et la Bretonne, elle a dit.
Elle a parlé du Taj Mahal, le marbre du Taj Mahal, le même marbre.
On va dire le marbre du Taj Mahal. Mais oui.
Bon, donc je bloque cette réponse.
Bloquons.
Ouais.
Et ouf, ouais. Parce que c'était la
bonne. Ouais. Ouais. J'adore ce jeu.
Dans les années 90, la bâtisse était décrépite, avait été ravagée par un incendie.
Ah ouais. Exactement.
Avouez, Daniel, vous aviez cru ma réponse au début.
Et en 2004, il y a un célèbre homme d'affaires qui a fait fortune dans la sidérurgie qui rachète la propriété pour la modique somme de 70 millions d'euros.
C'est donné.
Ouais.
Franchement,
vous n'avez jamais vendu une maison à ce prix-là. 70 millions d'euros.
C'est quoi la plus chère que vous ayez?
Faut diviser par deux.
C'est quand même pas mal.
C'était à Paris, ouais.
À part. Ouais. Wow. Alors, il y a 500 euros à gagner, les amis, pour Daniel qui va tenter le jackpot. Donc, c'est un moment de concentration. Il faut me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute, Daniel. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Allez, Daniel.
Allez, attention.
On est avec vous.
Top chrono. À Paris, quel monument se situe place de l'Étoile?
L'Arc de Triomphe.
Quelle actrice américaine tenait le pic à glace dans Basic Instinct?
Sharon Stone.
Au Japon, Miyazaki a sorti un film appelé Mon voisin Totoro ou Mon cousin Rototo?
Mon voisin Totoro.
Vrai ou faux, c'est en France que les classes d'école sont les plus chargées d'Europe?
Oui.
Le gardien de foot Hugo Lloris joue actuellement au Qatar ou aux États-Unis?
Aux États-Unis.
Charlène de Monaco est une ancienne nageuse ou une ancienne chanteuse?
Nageuse.
Quel acteur jouait le père de Sophie Marceau dans La Boum 2 en 1982?
Claude Brasseur.
Quel acteur jouait l'amant de Sophie Marceau dans Descente aux Enfers en 1986?
Lambert Wilson.
Quel Michel est le mari de Anne-Marie Perrier?
Michel Sardou.
De quelle région d'Irlande Michel Sardou a chanté les
Cornemara?